Vous écoutez
RMC. Deux suicides, deux tentatives, une mort suspecte en 7 mois. C'est le bilan dressé au sein des services du Premier ministre qui emploie quelques 3450 agents. Une plainte pour harcèlement moral et mise en danger de la vie d'autrui a été déposée le 25 juin dernier. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire. Bonjour, maître Christelle Mazat.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RMC, RMC Story ce matin. Vous êtes l'avocate de l'une des fonctionnaires qui a tenté de mettre fin à ses jours. C'était en avril dernier. Maître, qui est votre cliente et que lui est-il arrivé exactement?
Alors, ma cliente, c'est une fonctionnaire des services du Premier ministre qui travaillait dans le service des correspondances. C'est là où les services du Premier ministre reçoivent les courriers de l'ensemble des citoyens ou entreprises, associations de la nation. Donc, c'est un service qui a l'habitude de travailler sous tension. Progressivement, des suites de l'instabilité structurelle de ces services, depuis la dissolution de 2024, évidemment, et le nombre important de ministres, de premiers ministres et de cabinets différents qui se sont succédés, couplés à une ambiance extrêmement tendue au sein des services par des comportements individuels, s'est retrouvé totalement invisibilisé dans des conditions d'un particulier dénigrement et avec beaucoup, beaucoup d'humiliation.
Ça, c'est l'ambiance générale dans ces services, le dysfonctionnement de ces services que vous nous racontez. Qu'est-ce qui vous, selon vous, pardon, la conduite là à cette extrémité, elle, personnellement?
C'est-à-dire qu'on a toujours beaucoup de mal, manifestement, à comprendre que le harcèlement moral peut pousser à des gestes extrêmes, des passages à l'acte, mais c'est particulièrement cartographié dans la sociologie du travail. Quand on en arrive à de tels extrêmes, c'est le système et l'organisation du travail qui sont malades. À partir du moment où vous avez un seul cas déjà dans l'organisation du travail, ça doit immédiatement poser question. Quand il y a autant de cas et d'atteinte à l'intégrité de la personne, là, on est dans quelque chose d'extrêmement grave. Ça, c'est continuer en fait de participer d'un déni, de fragmenter les sujets en pensant que c'est des choses individuelles ne permet pas de comprendre ce qui se passe.
Maître, vous décrivez une situation personnelle qui est quand même frappante. Elle aurait été privée progressivement de ses missions, écartée des réunions, isolée dans un bureau en sous-sol. Ajoutez à cela, selon vous, des humiliations publiques, des commentaires dévalorisants qui sont dénoncés dans la plainte que vous avez déposée. Et je parle donc, nous sommes à Matignon.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que malheureusement, on attend de ce type de service une certaine exemplarité, puisque le service du Premier ministre gouverne la nation. Il faudrait déjà appliquer la loi sur l'obligation de protection de la santé et de la sécurité sur ses personnels. 3500 personnels, c'est pas les 70 millions et quelques Français. Ça pose question de savoir comment on peut à ce point faire un déni sur le respect de la dignité de la personne au travail.
Sachant que la santé mentale est grande cause nationale décrétée par le chef de l'État.
Oui, et c'est un peu toute la schizophrénie, parce que quand on regarde comment ça se passe dans le service public en général et ses services qui, encore une fois, sont soumis à une exemplarité particulière, quand on voit comment ça se passe, ça pose question. Comment on peut exiger ou régenter sur une nation quand, dans ses propres services, on n'a pas cette exemplarité-là? Et j'insiste parce que, malheureusement, ça continue, l'absence de prise en considération de ces sujets.
Ça continue à l'heure actuelle?
Les mesures appropriées ne sont pas prises, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où des responsabilités pénales sont engagées, on rentre dans une forme de guerre procédurale où, d'un côté, on va avoir un déni ou une analyse fragmentée des sujets, c'est-à-dire de renvoyer à chaque cas individuel sans se poser la question du système.
Et pour revenir au cas de votre cliente, c'est, selon vous, ce n'est pas un cas isolé, c'est un problème systémique.
Oui, mais le harcèlement moral au travail a toujours une inscription dans l'organisation du travail. Ça participe d'un déni. Pourquoi? Parce que c'est une défense. Évidemment, chaque organisation, privée ou publique, ne va pas remettre en question ses modes de fonctionnement, parce que c'est accepter que, quelque part, on a une organisation du travail malade. C'est toute la question du travail qui est posée. Et dans des structures comme ça, où on a l'habitude de travailler sous tension, il faut comprendre que c'est des fonctionnaires qui sont là depuis très longtemps, qui savent très bien comment ça fonctionne, qui ont l'habitude de ce type de service. Donc c'est pas la question de pas supporter la pression, c'est qu'à un moment donné il y a des comportements qui sont devenus absolument inacceptables.
Et vous établissez un lien direct de cette situation avec l'instabilité politique depuis la dissolution, les changements incessants au sein des ministères et notamment de Matignon.
Ça, l'enquête approfondira et le dira, établira les responsabilités. En tout état de cause, sur une simple science du travail, quand vous avez une telle instabilité structurelle, qui est assez inédite quand même dans la Ve République, et que vous avez autant d'atteintes à l'intégrité de la personne en si peu de temps, je pense qu'il y a des conclusions à en tirer.
Est-ce que vous avez appelé le Premier ministre actuel, Sébastien Lecornu, à prendre la parole ?
Écoutez, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'administration, on organise les choses correctement pour qu'il y ait un certain nombre de hauts fonctionnaires ou de membres du cabinet qui soient responsables bien avant le ministre, hein, puisque le principe, c'est que les hauts fonctionnaires protègent toujours les décisions politiques. Mmh. La vraie question, là, aujourd'hui, que ce soit là le Premier ministre ou les autres ministres, parce qu'ils sont aussi concernés, malheureusement, par ce type de sujet. L'année dernière, j'avais dénoncé les suicides à l'hôpital. À un moment donné, il faut interroger les responsabilités politiques ou quand on met en place des organisations du travail dans nos institutions là, publics qui sont aussi mortifères, je pense que ça doit interroger tous les citoyens et qu'on doit effectivement répondre de ces situations.
Mais le patron, c'est quand même lui, à l'heure actuelle de Matignon.
Alors, directement...
Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas lui qui gère directement les services, mais enfin, au bout d'un moment, la responsabilité, elle est engagée.
Ah ben, encore une fois, sur le strict terrain pénal, il y a plusieurs échelons et ça, l'enquête déterminera les responsabilités directes, puisque dans la fonction publique, il y a, on appelle ça les hiérarchies fonctionnelles ou statutaires. Donc, qui sont les responsables au sens de la loi? Qui a l'obligation légale de la protection de la santé et de la sécurité? Mmh. Sur un terrain politique, moral, éthique, hein, c'est des questions de déontologie aussi. Mmh. Et là, on répond comme n'importe quel fonctionnaire. On exige des fonctionnaires une exemplarité absolue. Moi, j'aimerais qu'on ait cette même exigence vis-à-vis de nos décideurs et de nos patrons politiques.
Merci beaucoup, Maître Christelle Maza, d'avoir été avec nous. Puis je vous rappelle un numéro, le 3114, numéro national de prévention du suicide gratuit et accessible 24 heures sur 24.